RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, la crise du coronavirus qui a réussi en peu de temps l'exploit de confiner près de la moitié de la population mondiale a mis à jour les dysfonctionnements de nos sociétés. La ville aussi a montré ses écueils face à la pandémie. Trop de monde, pas assez d'espace vert, des logements étouffants, des transports inadaptés, des difficultés pour s'approvisionner. Résultat, les plus aisés ont fui les villes. Près de 20% des Parisiens ont quitté la capitale pour vivre le confinement dans de meilleures conditions, soit un habitant sur cinq, et c'est un phénomène mondial. Il y a aussi eu quelques miracles, comme les habitants de New Delhi qui ont pu enfin admirer l'Everest pour la première fois, les Chinois qui ont vu leur ciel bleu dépollué, et les eaux de Venise qui sont redevenues transparentes grâce à l'arrêt du trafic. Alors qu'en 2030, notre monde devrait compter plus de 750 villes de plus d'un million d'habitants, dont 150 rien qu'en Chine, la ville pose question. Quelle est sa juste taille? Quels sont les aménagements nécessaires pour bien vivre ensemble, malgré l'explosion démographique, notamment en Afrique? Comment anticiper les crises systémiques à venir, la transition écologique, le dérèglement climatique? Nous vous emmènerons dans deux villes innovantes, Kampala et San Francisco, mais je vous propose tout d'abord d'accueillir notre invité.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour Thierry Paco.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et urbaniste, professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier « Mesures et démesures des villes » aux éditions du CNRS. Alors, qu'est-ce que cette crise du coronavirus qui a imposé dans de nombreux pays le confinement dit de la manière, selon vous, dont nous avons construit nos villes ?
Alors, ce n'est pas trop le virus qui nous révèle les dysfonctionnements des mégalopoles, mais ça va les accentuer. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre que la ville démesurée, la ville qui n'est pas à l'échelle humaine, eh bien, est une ville qui forcément pose d'énormes problèmes en cas de dérèglement, comme vous l'avez très bien dit, tout tombe en panne. Et c'est quelque chose qui est très connu depuis très longtemps. Nous avons quelques rares témoignages sur la peste noire de 1347-1349, où là on avait vu aussi que les villes où les plus denses étaient celles qui avaient eu la propagation la plus importante de la maladie et donc le nombre de morts plus élevé. Alors, c'est pas par hasard si le foyer du virus est le plus tenace dans les zones urbaines, que ce soit en Chine ou que ce soit en Italie, en Espagne ou aux États-Unis aujourd'hui.
Alors, jusqu'aux années 60, la santé publique était un enjeu important dans l'aménagement des villes. Que s'est-il passé ?
Alors, en fait, c'est très compliqué d'établir une histoire parallèle et entremêlée de la médecine d'un côté et de l'urbanisme de l'autre. L'on sait que les Grecs anciens préconisaient de construire les villes là où il y avait une eau de bonne qualité, là où il y avait un air de bonne qualité, là où les vents pouvaient balayer les miasmes par la disposition judicieuse des rues dans le bon sens, mais c'était tout. D'une certaine façon, la préoccupation publique, comme vous me le demandez, apparaît à la suite du choléra de 1832 à Paris, qui a fait en 6 mois 19 000 victimes, ce qui est considérable évidemment. Et puis, une autre maladie, qui est la maladie de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui est la tuberculose, eh bien, a obligé ce qu'on a appelé les hygiénistes à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un habitat qui serait de bonne qualité, qui permettrait une bonne santé. Le résultat a été évidemment de dire qu'il faut décongestionner la ville. La ville est trop dense, il faut donc bien séparer les bâtiments les uns des autres, il faut les ouvrir avec des grandes baies vitrées au soleil et au bon air, il faut planter le maximum de parcs et de squares. Et évidemment, ces bonnes intentions sont restés longtemps sans effet parce que un propriétaire, ce qui l'intéresse, évidemment, c'est le loyer qu'il touche. Donc, on a continué à avoir un habitat insalubre, un habitat exigu pendant des décennies et des décennies. Alors, la grande rupture, elle est médicale. C'est l'invention des antibiotiques qui, là, du coup, modifie le rapport à la maladie et fait que, du coup, quel que soit le logement, quelle que soit la forme de la ville, eh bien, avec les antibiotiques, on est, entre guillemets, protégé.
Là, on est après la Seconde Guerre mondiale, en fait.
Alors, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire c'est une période de la reconstruction d'un côté, et puis de ce qu'on a appelé par la suite les Trente Glorieuses, c'est-à-dire qu'on est dans l'illusion que les progrès ne font que s'enchaîner les uns les autres et que nous sommes invincibles et que nous sommes les plus puissants.
Et du coup, vous écrivez que l'urbanisme est désormais au profit d'une ville productiviste conçue pour un individu masculin, en bonne santé, solvable et actif.
Exactement. Alors, je le trouve dans les textes, évidemment, depuis celui qui a inventé le terme, qui est un Espagnol, qui s'appelle Ildefonso Cerdà, qui invente le mot urbanisme en castillan et qui va ensuite se répandre très lentement en Allemagne d'abord, en Autriche, puis ensuite en Angleterre et enfin en France, où le mot urbanisme apparaît en 1910. Et à ce moment-là, l'urbanisme français s'expérimente dans les colonies. Et donc, surgit dans les colonies, évidemment, des maladies qu'on ne connaît pas en France, des maladies dites tropicales, et on va imaginer à ce moment-là des cordons sanitaires, on va imaginer des hôpitaux, bien sûr réservés majoritairement pour les Blancs, mais des hôpitaux qui auront des pavillons séparés afin d'éviter le phénomène de la contagion. Alors, bien sûr, va avec ça la question de la salubrité de l'eau, et puis peut-être d'une certaine végétalisation. Mais à dire vrai, je ne vois pas de théoricien de l'urbanisme qui mette en haut des préoccupations la question de la santé. Ça reste une question personnelle, individuelle. Alors, les plus philanthropes, les plus proches de la population vont dire il faudrait qu'il y ait un maillage sanitaire territorial avec la distribution de dispensaires, de bains et douches, etc. Mais ça ne va pas vraiment prendre, à dire vrai.
Alors avec le changement climatique, il faut repenser nos villes et entrer dans ce que vous appelez l'âge post-béton. Alors avant que vous nous expliquiez cela, je vous propose de partir en Ouganda, puisque la capitale, Kampala, avec ses 4 millions d'habitants, est classée parmi les villes les plus polluées du monde. Les cours d'eau de la capitale sont envahis par les détritus, les véhicules, pour la plupart anciens, crachent des tonnes de fumée noire. L'arrivée de vélos électriques solaires en libre-service est une nouveauté, mais qui s'adresse encore à un trop petit nombre. Mais réduire la pollution est devenue l'une des lignes directrices de la politique de la mairie de Kampala, la ville qui subit déjà les conséquences du changement climatique, avec de plus en plus d'inondations, tente de mener une politique environnementale dynamique pour faire changer les habitudes des institutions et des habitants. C'est un reportage de Charlotte Cosset.
Bonjour, mon nom est Esso Galukande et je travaille pour l'autorité de la ville de Kampala en tant qu'adjoint à la production et au marketing. Aujourd'hui, nous avons une formation pour les fermiers. Et en fait, nous nous concentrons sur les fermiers en zone urbaine et périurbaine. Nous voulons leur enseigner certaines techniques, comme comment conserver l'alimentation pour le bétail. Mais nous voulons aussi leur enseigner des techniques de production de légumes en ville. Nous avons environ 300 personnes, alors qu'initialement nous avions prévu une centaine. Nous avons été vraiment submergés. C'est un énorme succès. Je pense que beaucoup de gens recherchent des solutions pour faire de meilleurs bénéfices et aussi pour réduire le coût de l'alimentation du bétail. Ils doivent relever plusieurs défis, comme le fait de travailler de petites parcelles, de trouver de bonnes semences et d'obtenir de nouvelles technologies qu'ils peuvent utiliser pour produire de la nourriture pour leurs animaux. Donc ce centre fait des démonstrations techniques qu'ils peuvent utiliser dans leur ferme. En tant que ferme urbaine, nous avons des cochons dont nous nous occupons. Et nous utilisons notre système appelé IMO. Ce sont des micro-organismes indigènes qui détruisent les odeurs des cochons. Et donc, par conséquent, vous pouvez avoir des cochons en ville sans aucune odeur. Cela fonctionne très bien. Par exemple, Là, nous avons 200 cochons et je ne pense pas que vous puissiez sentir quelque chose. En fait, ça consiste en une litière faite de copeaux de bois et de foin. Nous faisons ce qui s'appelle une solution IMO en utilisant une bactérie que nous cultivons pendant une semaine. Et ensuite, il nous suffit d'en répandre toutes les semaines. 20 litres pour une unité suffisent à détruire les odeurs. Tout le monde peut en faire. Un autre produit que nous avons ici, ce sont les sacs de culture. Nous montrons aux gens qu'ils peuvent produire de la nourriture, même s'ils vivent dans un appartement. Cela se fait dans un sac et vous plantez verticalement. Vous pouvez produire suffisamment de légumes pour votre famille pour une année dans un sac de 100 kilos.
Je crois que cette ferme urbaine est écologique.
Oui, ça l'est, parce que nous cherchons toujours à recycler. Et en même temps, nous essayons de promouvoir le bio pour tous les systèmes. Nous faisons le maximum pour produire les légumes de manière biologique. C'est vraiment important parce que nous ne voulons pas dégrader l'environnement et nous voulons être sûrs de ce que nous mangeons.
Ok, maintenant ici, vous pouvez mettre des lettres, vous pouvez mettre des cabbages, vous pouvez mettre des spinach, vous pouvez mettre des sukumawichi, puis en top. You put tomatoes, bulb onions, so everything that has got.
I'm about to graduate from the university, Makerere University.
Je vais bientôt être diplômée de l'université de Makerere. J'y ai fait un baccalauréat en sciences et nature. Je suis en train de chercher une manière de gagner un peu d'argent en attendant d'avoir un salaire. Mais pour l'instant, avant d'être diplômée, je souhaite commencer une petite entreprise agricole. Je suis convaincue par ces sacs de culture, car j'en ai vu avant sur Internet et dans de nombreux endroits. C'est comme de la culture urbaine, mais ils le font sur un plus petit espace. Vous pouvez le faire dans votre arrière-cour, et c'est vraiment bon marché et pratique. Ce qui est bien par rapport à d'autres modes de production, c'est que vous pouvez apprendre aux enfants comment cultiver de cette manière. Par exemple, disons que vous cultivez des tomates. On peut mettre 24 plants de tomates dans un sac de culture. 24 plants de tomates cultivés de manière conventionnelle vont avoir besoin de plus d'espace qu'un mètre carré. Et ce sera donc également plus d'un mètre carré que l'on va devoir arroser. Si je voulais arroser les mêmes 24 plants sur un terrain conventionnel, cela demanderait au moins 100 litres d'eau par semaine. Alors qu'avec ce sac, on a besoin de 50 litres. C'est une véritable économie et c'est bon pour l'environnement. Et avec cette méthode, les sols ne sont pas appauvris et je peux retirer le sac quand j'ai fini. Et comme il n'y a pas besoin d'ajouter de produits chimiques, c'est aussi bon pour le sol.
Est-ce que c'est important pour toi de respecter l'environnement ?
C'est très important parce que les générations futures ont besoin d'un endroit où vivre. Il nous faut penser un futur pour tout le monde et ne pas seulement penser au présent, parce que les jeunes arrivent et nous allons vieillir. Donc nous devons leur laisser un meilleur environnement.
Donc ce n'est pas seulement une question d'argent.
Non, vraiment pas. Ok, bien sûr, tu peux penser à l'argent, c'est vrai. Tu peux évidemment te demander si cela est rentable. Après, tu penses à, est-ce que c'est bon pour l'environnement ? Alors si c'est ok, tu peux le faire. Si ce n'est pas bon, tu peux bien sûr continuer. Mais je pense qu'il ne faut pas aller sur cette voie. C'est vraiment important pour moi d'avoir quelque chose de respectueux. Cela doit être bon pour tout le monde, même pour ceux qui vivent autour de ma production. Par rapport aux pesticides, il y a des alternatives. Par exemple, j'ai lu quelque part que l'on peut utiliser de l'urine de lapin. Les produits bio sont meilleurs pour la santé et ils sont aussi meilleurs pour l'environnement. Donc, je pense que c'est bien de regarder vers des alternatives aux pesticides et aux produits chimiques.
Nous conservons l'alimentation pour les animaux afin qu'ils puissent être nourris pendant la saison sèche. Nous utilisons des déchets comme le reste des patates douces afin de faire de l'ensilage. Vous savez, habituellement, les restes de patates douces sont jetés pendant la période des récoltes et pourtant ils peuvent être utilisés pour nourrir les animaux. Donc maintenant, nous formons les fermiers urbains à collecter ces déchets et à faire de l'ensilage qu'ils peuvent utiliser le reste du temps. C'est écologique et cela contribue à la sécurité alimentaire et à assurer les stocks pour les animaux. Parce qu'on peut ainsi nourrir ces animaux toute l'année et donc avoir du lait et cela crée des revenus.
Donc les gens sont très intéressés.
Les gens sont vraiment très intéressés. En fait, le nombre de participants espérés a été dépassé. Alors, comment j'explique cela? Les gens sont vraiment demandeurs. D'habitude, après une présentation, normalement les gens s'en vont. Mais regardez, il pleut et les gens sont toujours là. Cela montre leur intérêt pour cette formation. Vous savez, la sécurité alimentaire est un vrai problème aujourd'hui. Les gens dépendent de leurs animaux et n'ont pas de travail. Donc quand ils se tournent vers la culture, ils doivent trouver une solution pour nourrir leurs animaux et obtenir un moyen de subsistance. Vous savez, le chômage est partout et il y en a tellement. C'est pour ça qu'ils vont vers l'agriculture urbaine.
Je suis moi-même un fermier, je viens de Mukono. Je devais venir parce que, vous savez, lorsque vous échangez avec d'autres fermiers, vous apprenez tellement. Et en vérité, j'ai appris beaucoup, surtout de cette dame ici, qui nous a donné des informations sur comment conserver la nourriture pour les animaux. C'est vraiment bien. Parce que, vous savez, pendant la saison des pluies, on a de l'herbe ou du foin, mais lorsque la saison sèche arrive, votre animal meurt de faim parce que vous n'avez pas de quoi le nourrir. Mais si vous apprenez comment préserver de la nourriture, alors c'est super. J'ai appris qu'il y avait des formations par un ami et j'ai reçu aussi de la publicité disant que nous allions avoir une démonstration agricole par KCCA à Kampala. J'ai donc décidé de venir. Ces exemples sont bons et je pense qu'il faut même plus d'explications. C'est pourquoi je voudrais acheter le CD de cette dame. Ainsi, quand je rentrerai à la maison, je pourrai réviser tout ce que j'ai entendu ici et avoir quelque chose de plus approfondi quand je le mettrai en pratique. Une autre chose, la façon dont ils ont fait les sacs de culture, je ne savais pas qu'il existait des choses comme celle-là. Quelqu'un m'a dit que je pouvais facilement les mettre dans ma parcelle et planter des fruits et des légumes et je pourrais consommer tout de suite. C'est aussi une chose intéressante que j'ai apprise ici.
À Kampala, la politique de la ville est tournée vers les questions environnementales depuis peu. Jennifer Musisi est la directrice de Kampala Capital City Authority, KCCA.
5 years ago, we came into the city to set up the
Il y a 5 ans, nous sommes arrivés à la mairie pour mettre en place une nouvelle organisation en charge de la gestion de la ville, la Kampala Capital City Authority. Nous avons développé notre plan stratégique et ensuite, plus spécifiquement, des projets pour la ville. Toute notre vision est de faire de Kampala une ville attractive, vibrante et durable pour tous. Inévitablement, l'un des principaux points dans les objectifs de durabilité et d'attractivité sont les questions relatives au changement climatique. Nous avons, par conséquent, développé un plan d'action sur le changement climatique. Nous travaillons aussi pour promouvoir l'usage d'énergies renouvelables. Par exemple, nous travaillons à changer nos lampadaires par des systèmes fonctionnant au solaire. Nous avons aussi introduit le biogaz pour la cuisine dans les différentes écoles que nous gérons. Et nous avons aussi mis en place des cuisinières écologiques dans l'un de nos plus grands marchés afin d'aider les femmes à cuisiner d'une manière durable, sans charbon et sans bois de chauffe. Elles utilisent désormais des pierres volcaniques pour la cuisine. Nous avons voulu impliquer toutes les parties prenantes parce que nous savons que nous ne pouvons le faire seuls. Par exemple, en ce qui concerne les énergies renouvelables et le biogaz, nous avons approché d'autres acteurs comme les institutions, le secteur privé, les ministères concernés et les avons impliqués pour voir comment nous pouvions travailler ensemble afin d'être sûrs que notre stratégie réussisse. Nous avons aussi fait la promotion de projets d'énergie renouvelable dans les communautés que nous supportons, mais aussi dans nos écoles en sensibilisant les enfants. Il y a encore une longue route à parcourir, mais il y a maintenant une conscience à propos de la déforestation et de la nécessité de se tourner vers l'écologie. Ces 5 dernières années, nous avons travaillé à rendre la ville plus verte et il y a déjà un impact positif. Et nous encourageons les communautés à s'impliquer dans ces projets environnementaux.
Quels impacts ?
Des choses comme l'érosion. L'érosion des sols a diminué depuis que nous avons planté des arbres et des graminées. Et puis, ces plantations ont un impact direct sur la qualité de l'air que nous respirons en ville. Tout le monde est concerné et tous les acteurs doivent participer.
Mon nom est Sunday Emmanuel. Je suis le directeur de Capida. Capida est une organisation non lucrative spécialisée dans l'environnement et spécifiquement dans les technologies permettant de faire des économies d'énergie. Nous avons commencé il y a 3 ans. Nous visons les jeunes qui recyclent les déchets dans la ville et faisons des briquettes. Ces briquettes sont une forme d'énergie vraiment pas chère et qui sont utiles au niveau des ménages et aussi au niveau des institutions comme les hôtels. Nous sommes basés à l'université de Makerere qui nous aide à améliorer certaines de nos technologies pour nos briquettes. La Kampala City Council Authority est vraiment notre principal client. Ils achètent nos briquettes pour leur projet de couveuse de poussins à Kianja, l'une des banlieues de Kampala. Là-bas, ils forment des jeunes à des projets durables qu'on peut réaliser soi-même. Nous recyclons tout type de déchets, y compris les déchets organiques humains. Ici, dans la ville de Kampala, il y a des tas de poubelles, ainsi que des déchets en provenance des abattoirs. Des abattoirs qui sentent vraiment mauvais. Mais nous collectons ces déchets et nous les faisons sécher. Nous utilisons ici tous les types de matières organiques. Donc ce que nous faisons, c'est que nous carbonisons cette matière. Carboniser signifie transformer ces déchets en noir de carbone. Pour cela, nous les brûlons dans nos installations, ici. Mais maintenant, notre plus gros défi, ce sont les machines. Les machines que nous avons ne sont pas conçues pour produire différentes tailles de briquettes. Nous produisons pour l'instant uniquement de grosses pièces qui peuvent être utilisées par les restaurants et les grandes institutions. Mais nous savons que les personnes qui endommagent l'environnement sont essentiellement au niveau des ménages. Donc, nous nous concentrons maintenant sur eux. Nous essayons d'obtenir des machines qui peuvent modeler des petites briquettes que les femmes à la maison peuvent utiliser tous les jours. Mais pour l'instant, comme nous n'avons pas de machine, le prix de nos briquettes est un peu élevé par rapport au charbon. Mais si nous obtenons des machines, nous pourrons baisser le prix. Si nous réduisons le prix, ainsi, beaucoup de ménages pourront se tourner vers nos briquettes. Un autre point positif est qu'elles ne produisent pas de fumée et elles brûlent plus longtemps. Watson peut venir et expliquer combien il en produit chaque jour.
Bien sûr. Les briquettes que nous faisons, celles qui sont en forme de nid d'abeille, une personne en une journée peut en faire 120-130.
C'est ici que nous séchons à la fois nos briquettes en nid d'abeille et nos briquettes en forme de bâtonnet. C'est pourquoi nous avons posé cette bâche ici. C'est pour arrêter la pluie et ainsi nous pouvons les faire sécher même la nuit. Cette machine a des tubes à l'intérieur. Vous voyez ? C'est comme des dents dans la machine. Il va mettre la matière. Et là, il presse. Et nous utilisons aussi les déchets du charbon. Ce pays utilise beaucoup de charbon et cela a causé vraiment beaucoup de problèmes pour l'environnement. Le charbon, c'est la déforestation. De plus, nous avons très peu d'électricité. Notre pays ne peut pas en fournir à tout le monde. Donc les gens utilisent le charbon. Et ce charbon a vraiment détérioré notre environnement. Nous, nous pensons que si nous recyclons le charbon, nous pouvons consommer moins d'énergie. Et bien sûr, nous pensons que grâce à cela, nous pouvons diminuer le stress environnemental causé par l'utilisation du charbon.
Un reportage de Charlotte Cosset réalisé par François Porcheron. Thierry Pacaud, je rappelle que vous êtes philosophe et urbaniste et professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris. Comment réagissez-vous à ce reportage ?
Alors, il me réjouit parce qu'il montre d'abord que le continent, comme vous l'aviez dit au tout début de l'émission, le continent qui va s'urbaniser au XXIe siècle, c'est l'Afrique. Il va s'urbaniser, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'habitants dans les villes que dans les campagnes, mais aussi il y aura beaucoup plus d'habitants en général. C'est un pays qui va aussi connaître une forte croissance démographique. Et jusqu'à présent, les villes africaines avaient une extension horizontale, avec quelques rares bouquets de gratte-ciel, mais qui ne correspondent pas du tout aux conditions climatiques ni énergétiques de ces villes. Donc, le fait qu'il y ait de telles innovations dans une ville comme Kampala, qui est une ville difficile, une ville collinaire, une ville qui a énormément d'orages, qui a, comme vous l'avez dit, des risques d'inondation, donc c'est une ville qui n'est pas facile. Eh bien, je trouve que c'est réjouissant de voir qu'il y a une prise de conscience que dorénavant, ce qui prime, ce n'est pas l'imitation du modèle occidental, avec le tout béton par exemple, mais c'est l'idée de partir au plus près des gens, avec des jardins partagés, avec l'élevage de porcs, avec tout ce qui a été dit dans le reportage, et qui nous explique que les solutions sont souvent des solutions très simples, peu coûteuses, j'allais presque dire de bon sens, et qui renoue avec un savoir-faire vernaculaire qu'on avait oublié. Alors, ça, c'est une bonne chose, parce que je suis de plus en plus persuadé que la crise dans laquelle nous vivons va nous obliger à revenir au cas par cas et aux sur-mesures. Et donc, Kampala, ce n'est pas Dakar, Dakar, ce n'est pas le Caire. Et donc, il n'y aura pas une solution magique qu'on appellerait et qu'on appelle en ce moment, d'une manière que je trouve scandaleuse, la Smart City. Non, 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 ce n'est pas ça. Il faut que les habitants, par leur propre parcours dans la ville, par leurs propres usages de la ville, par leur propre comportement, expliquent comment transformer cette ville pour en faire un lieu habitable.
Après, il y a des défis immenses. Hein. On sait que des villes comme Lagos et Kinshasa devraient habiter chacune plus de 20 millions d'habitants d'ici 2030.
Mais c'est démesuré. Et bon, vous indiquiez que Kampala, c'est 4 millions d'habitants, c'est-à-dire un dixième de la population de l'Ouganda. N'oublions pas qu'en 1900, il y avait 20 000 habitants. Donc, on voit là une transformation d'échelle, évidemment, qui est démesurée et qui fait que ces habitants n'ont pas du tout le même rapport à la ville. Je donnerai deux exemples. La marche, par exemple, nous en France, on dit « Ah, on a redécouvert la marche à pied, la ville va devenir pédestre, il faudra élargir les trottoirs, etc. » Mais en Afrique, le premier moyen de transport, c'est la marche. Donc, ce n'est pas ça qui est nouveau, ce n'est pas ça qui va modifier l'organisation structurelle et infrastructurelle de la ville. Alors, peut-être le vélo électrique, c'est une chose, mais il faudrait voir aussi d'où vient l'électricité nécessaire à ce vélo électrique. Et puis, d'autre part, il y a, je crois, toute une échelle de valeurs qu'il faudra reconsidérer. C'est-à-dire, je suis intimement persuadé que beaucoup de ces villes d'Afrique, sous domination de l'idéologie internationale, pensent que la solution est technique. Et je crois que non. Parce que si vous rajoutez de la technique à la technique, vous rajoutez d'énergie à l'énergie. Et nous sommes dans une situation, non pas de pénurie énergétique, mais quand même d'épuisement des énergies fossiles. Donc, il nous faut bien avoir en tête tous ces éléments-là, c'est-à-dire qu'il nous faut faire une ville mieux avec moins. Et je suis persuadé qu'il y a des tas de savoir-faire africains que les Africains eux-mêmes ignorent peut-être ou ne valorisent pas assez, qui contribueront à introduire cette espèce de frugalité joyeuse dans la manière de penser nos territoires.
Oui, mais je pense par exemple aux constructions en terre qui sont plus adaptées au climat africain que les constructions en béton. Mais là, il faut vaincre des freins culturels parce que quelque part, le béton, ça fait moderne.
Exactement, vous avez absolument raison. Le béton fait moderne, comme la clôture métallique et puis les baies vitrées. Et évidemment, comme on ne les fabrique pas sur place, on les commande. Donc, on est dépendant de grandes multinationales qui réussissent évidemment à s'implanter. Et le danger, il est multiple, mais j'en ai repéré un quand même en ce moment, c'est que si vous regardez les sites des grandes sociétés multinationales du BTP, du bâtiment et des travaux publics, je ne donnerai pas les noms, mais on les connaît tous, eh bien, chacune a produit, financé une officine spécialisée dans ce qu'ils appellent le développement durable. Alors, c'est un paradoxe, parce que l'urbanisme, comme je l'ai défini dans mes livres, ne peut pas devenir durable. C'est impossible, parce que ce serait scier la branche sur laquelle il est assis, cet urbanisme. Donc, il faut rompre avec cet urbanisme de la ville productiviste, et pour ça, il faut inventer, et là, tout est à tester, tout est à expérimenter, il faut inventer une nouvelle territorialité. Je dis territorialité parce que on n'est plus dans l'échelle de la ville. Kampala comprend plusieurs Kampala, c'est le témoignage le montre très bien. Donc il y a des rythmes, des temporalités spécifiques selon les quartiers, selon les activités qui s'y déroulent, selon les populations et leur savoir-faire. Donc c'est tout ça qu'il faut finalement essayer d'exalter.
Comment adapter les villes aux enjeux écologiques du 21e siècle? C'est le thème aujourd'hui dans C'est pas du vent.
Des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des villes aujourd'hui avec notre invité Thierry Pacaud, philosophe et urbaniste. Des villes qui montrent leurs limites avec la crise du coronavirus et qui, tout en grossissant, doivent s'adapter aux enjeux écologiques du 21e siècle. Dans l'Ouest américain, la ville de San Francisco est célèbre pour son emblématique pont du Golden Gate, son brouillard permanent, ses cable cars et ses maisons victoriennes colorées. Mais c'est aussi une ville qui a fixé des objectifs ambitieux à ses 900 000 habitants, comme recycler ou composter 100% de ses déchets. Debbie Raphaël est la directrice du département environnement à la mairie. Elle nous explique leur stratégie.
San Francisco's climate action.
Alors, je dirais que la stratégie en matière d'action sur le climat de San Francisco peut se résumer à quatre mots. Zéro, 80, 100 et racine. Alors par zéro, j'entends zéro déchet. Par 80, j'entends 80% des déplacements doivent se faire selon un mode durable. Au niveau du mot 100, eh bien, il s'agit d'avoir 100% d'énergie renouvelable. Et puis par racine, eh bien, il s'agit d'utiliser les arbres, la végétation et le compost pour guérir notre sol. Donc en fait, c'est une politique, je dirais, économique circulaire qui tourne autour du zéro déchet. Et donc, quand nous disons que nous avons des ambitions très fortes en matière de zéro déchet, eh bien, cela rentre dans le cadre de notre stratégie d'action sur le climat. Parce qu'en tant que ville, nous sommes responsables du problème.
L'objectif, c'est zéro waste, ça veut dire pas de déchets du tout. Comment est-ce que c'est possible pour une ville de cette dimension ?
En fait, on aime bien dire à San Francisco, mais si vous n'êtes pas en faveur du zéro déchet, vous êtes en faveur de combien de déchets ? Nous sommes rendus compte que quand on a des ambitions très fortes en matière de zéro déchet, que vous soyez une ville de 900 000 habitants comme San Francisco, de 12 millions ou de 1000 habitants, c'est le même problème en fait qui se pose et les solutions doivent être les mêmes. Au final, c'est la responsabilité de chacun qui est engagé en ce qui concerne le zéro déchet. Que vous soyez une entreprise, un citoyen privé, un écolier, un élu de la municipalité, nous avons tous un rôle à jouer et nous sommes convaincus que c'est en coopérant que nous allons arriver à parvenir à ce zéro déchet.
Mais il faut que vous impulsiez quand même une politique qui a été entamée déjà depuis nombreuses années. Alors expliquez-nous, expliquez aux maires des villes qui nous écoutent à travers cette émission quelles sont les recettes pour parvenir au zéro déchet.
We started out by saying please.
Bien, nous avons commencé en demandant aux gens, s'il vous plaît, faites quelque chose, participez. Et puis en fait, nous sommes rendus compte au bout d'un moment qu'il fallait vraiment définir des politiques, définir des objectifs. Et en 2003, San Francisco est devenue la première ville aux États-Unis qui exigeait le compostage et le recyclage de toutes les entités, que vous soyez un particulier, que vous soyez une entreprise, que vous soyez une école. Le deuxième élément, c'est que vous devez investir dans l'infrastructure. Et nous avons beaucoup investi dans le recyclage, dans le compostage. Récemment, nous venons d'investir 14 millions de dollars pour améliorer notre entité de tri qui se trouve à San Francisco. Et le troisième point, c'est l'éducation. C'est-à-dire, nous avons beaucoup investi pour éduquer, former chaque résident de San Francisco pour que tout le monde sache exactement qu'est-ce qui va dans quoi. Par exemple, nous menons des actions auprès de milliers de personnes tous les jours, auprès de milliers d'enfants. Nous envoyons aussi des équipes qui font du porte-à-porte et nous éduquons donc tous les résidents de San Francisco, que ce soit de petites entreprises, que ce soit des particuliers. On fait vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour s'assurer que les gens savent exactement ce qui se passe et ce qu'ils doivent faire. Et enfin, il y a certaines choses qu'on ne peut pas recycler. Par exemple, le polystyrène, les sacs en plastique. Et là, nous n'avons pas peur de prendre des actions radicales et d'interdire ces articles et de dire « vous ne pouvez pas vendre ces sortes de choses dans notre ville de San Francisco ».
Qu'est-ce qu'on risque si on vend un sac plastique à San Francisco ?
We
Donc on essaye en fait de ne pas infliger des amendes immédiatement. On essaye d'éduquer, de former les entreprises, de leur indiquer quelle est la marche à suivre. Et si vraiment ils s'entêtent à ne pas suivre nos directives, eh bien à ce moment-là, on impose des amendes sur la base d'une pénalité par jour.
Et tout cela, cette politique zéro déchet a quand même un coût pour la municipalité.
The cost is really not an issue.
En fait, le coût n'est pas un problème. Et ce que nous facturons aux citoyens pour le ramassage d'ordures est tout à fait cohérent à ce qui est facturé dans d'autres villes qui ne sont pas dotées du même système de recyclage et de compostage. Je dirais qu'en fait, ce système, eh bien, cela crée des emplois. Une tonne d'ordures qui va dans une décharge municipale, c'est un emploi. Mais une tonne d'ordures qui est recyclée, qui est compostée, c'est 10 emplois. Et ce sont de bons emplois, ce sont des emplois verts. Donc en fait, cette économie zéro déchet, cette économie circulaire, c'est une économie créatrice d'emplois.
Et vous en êtes où aujourd'hui dans l'objectif? Vous êtes vraiment à zéro déchet?
We are not at zero waste.
Alors non, nous ne sommes pas encore au zéro déchet, mais ça ne veut pas dire qu'on va, on va s'arrêter dans ces efforts. Nous avons réussi à diminuer de moitié le volume d'ordures qui va directement dans les décharges publiques. Et en fait, chaque année, maintenant, nous en sommes à 2 millions de tonnes de déchets qui sont compostés. Et c'est formidable parce que cela fait partie de la solution face au changement climatique. Mais malheureusement, les habitudes des consommateurs ne vont pas dans le bon sens. Nous sommes dans une société de consommation où les gens préfèrent souvent la commodité. Et il y a ce que j'appelle le facteur Amazon. Il y a de plus en plus d'emballages, il y a de plus en plus de cartons. Et c'est un véritable défi pour nous. Je pense que nous avons besoin de galvaniser les gens, car c'est vraiment le moment de redoubler nos efforts.
Thierry Pacaud, je rappelle que vous êtes philosophe et urbaniste et auteur de « Mesures et démesures des villes » publié aux éditions du CNRS. Comment réagissez-vous à ces ambitions de San Francisco ?
Eh bien, j'applaudis parce que c'est enfin une bonne nouvelle qui nous vient des États-Unis. C'est vrai que vu d'ici et vu du président actuel, on est un peu désespéré pour les États-Unis. Or, et ce reportage le montre, il y a plusieurs grandes villes qui sont très ambitieuses d'un point de vue environnemental. Vous citez évidemment San Francisco, je vais y revenir, mais il y a Portland, il y a Seattle, il y a même New York qui fait un effort inouï. Ce sont des villes qui ont mesuré l'ampleur des désastres annoncés. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on sait que les ouragans ne vont pas s'arrêter demain. Au contraire, ils vont s'amplifier. Et donc, pour la Floride, ce sera catastrophique. On sait que la montée des eaux est inexorable. Et dès aujourd'hui, New York doit s'en préoccuper et s'en préoccupe. Du côté de San Francisco, évidemment, il y a toujours cette épée de Damoclès qui est le séisme. On annonce toujours le tremblement de terre fatal, j'allais dire, pour cette énorme agglomération. Alors, San Francisco ne part pas de rien, parce que pour les plus âgés comme moi, on sait que San Francisco, c'est la ville des hippies, c'est la ville de la contre-culture, c'est avec Berkeley, c'est la ville de la Beat Generation, et dedans, ces artistes, ces créateurs, ces poètes, eh bien, il y avait déjà des écologistes. Donc, le ferment écologiste est déjà présent dans San Francisco. Alors, avec Gary Snyder, avec des gens comme ça. Et c'est aussi à San Francisco qu'est né le mouvement biorégionaliste nord-américain avec Peter Berg. Et l'idée que San Francisco ne suffit pas pour créer une biorégion. Il faut donc l'étendre à l'ensemble de la baie. Et donc, dans le reportage qu'on vient d'écouter, il y a cette idée que c'est tout un ensemble géographique qu'il faut prendre en considération, et évidemment pas seulement San Francisco qu'on peut voir dans les polars. Donc, qu'il y ait cette idée que je trouve excellente de réutilisation, de réemploi, de ressourcerie, etc., ça c'est un point très important. D'autre part, dans le reportage, il est quand même expliqué que les mouvements associatifs sont quand même très souvent sollicités, parce que San Francisco a cette part lumineuse, son adresse qui est l'ambition environnementale, mais il y a aussi une part d'ombre qui est très importante, qui est celle de la gentrification de la ville. Donc c'est une ville qui aujourd'hui a une population qui travaille dans la Silicon Valley, pour qui la préoccupation environnementale n'est peut-être pas première. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que dans cette ville de San Francisco, eh bien, il y a des gated communities, c'est-à-dire des enclaves résidentielles sécurisées, et que récemment, en 2015, ça a défrayé la chronique même en France, en 2015, on a vendu des rues aux enchères pour les privatiser. Donc d'un côté, comme vous le dites, c'est un laboratoire expérimental pour l'écologie, et en même temps, il y a de l'autre côté une ville néolibérale qui s'affirme. Donc c'est exactement la contradiction que nous vivons, nous, en France, que nous vivons en fait partout dans le monde, qu'on voit là en temps réel et en grandeur réelle à San Francisco. C'est pour ça que c'est très important de suivre cet exemple.
Alors, vous dites qu'il faut s'inspirer peut-être de ce concept de biorégion. Vous dites aussi qu'il faut rentrer dans l'âge post-béton. Tout ça, ce sont évidemment des nécessités pour anticiper la ville de demain, même si on voit bien que les villes, finalement, elles se construisent au fur et à mesure, et puis il faut faire avec l'existant. Donc là, c'est un petit peu compliqué. On est dans le concept et en même temps, concrètement, comment on fait avec une ville qui existe déjà ?
Alors, avec les villes qui existent déjà, il y a des solutions, évidemment, des solutions dont l'une est née, je vais la mentionner tout de suite, qui est née à San Francisco en 2005, c'était Parking Day. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a décrété que pendant une journée, l'emplacement réservé aux automobiles sur le bord des trottoirs, on pouvait y installer des fauteuils, un rocking chair, y déjeuner ou inviter les voisins à manger avec nous, ou à jouer aux échecs, ou à lire. Eh bien, cette espèce de transformation de la rue, ça, on peut le faire dès maintenant. C'est-à-dire qu'on peut d'abord végétaliser, on peut considérer que la rue devient à nouveau piétonne et cyclable et qu'on relègue l'automobile à des usages très particuliers comme les ambulanciers, les médecins, etc. Donc là, il y a toute une réglementation et un mode de vie qui va avec, sur lequel, je crois, on peut jouer. Et ce n'est pas uluberlu de l'imaginer. Par contre, se désintoxiquer de la croissance et de la consommation, c'est une autre paire de manches. Alors ça demandera beaucoup plus de temps. Et donc, la ville, aujourd'hui, pour certains habitants, est l'objet de consommation. C'est-à-dire que je vais en ville pour la consommer. Je vais consommer une petite placette, je vais consommer une ambiance urbaine que j'ai vue au cinéma, etc. Alors ça, c'est excessivement grave parce qu'on ne peut pas consommer de la ville. On doit faire avec la ville et sans cesse transformer celle-ci pour la magnifier. Alors, la magnifier, bien, c'est effectivement la découvrir. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faut marcher dans cette ville. Et à San Francisco, nous avons des témoignages où il y a de plus en plus de gens qui veulent la découvrir en l'arpentant. Il y a une espèce de fascination pour l'idée de dérive urbaine, de poétique de la ville. Alors ça je crois que c'est quelque chose qui va obliger les décideurs à se repositionner. Mais on ne passera pas du jour au lendemain au poste béton parce que pour cela, il faudrait reconnaître que le gratte-ciel est énergivore et que le gratte-ciel est inurbain, avec le moyen de transport le plus coûteux et le plus utilisé au monde, qui est l'ascenseur. Alors, l'ascenseur devient aujourd'hui pathogène pour des questions de distanciation et de barrières sanitaires. On ne peut pas y monter à 40 dans un ascenseur qui fait 4 mètres carrés. Donc, je pense qu'il y a des habitudes comportementales qui vont changer à cause du virus et qui nous obligeront d'aller vers un mieux-être. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Merci beaucoup Thierry Pacaud d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos nombreux messages. Vous pouvez continuer à échanger avec nous sur les réseaux sociaux et vous retrouverez en bonus des vidéos de nos invités. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.